Pour sa 20e édition, le Festival Avant-Chopéra présente un tube de l'art lyrique, Carmen. Une nouvelle production signée Éric Vigier, sobre et dépouillée, dans l'Espagne des années 60. Avec deux Carmen d'exception, Beatriz Uria Monzón et Noémie Nadelman. Du 4 au 12 juillet, dans le cadre unique des Arènes d'Avanche. Tous les détails sur avantchopera.ch et rendez-vous chaque samedi à 19h dans Avant-Scène.
Espace 2. À vue d'esprit, Catherine Erard.
Il menait sa vie à 200 à l'heure. Comédien, animateur radio, enseignant. Il courait partout et tout le temps. Et puis un jour, suite à un grave accident de moto, il fait une expérience qui va tout remettre en cause. Depuis, il est devenu prêtre. Near Death Experience, expérience de mort imminente. Toute cette semaine, à vue d'esprit se penche sur cette réalité troublante qui laisse entrevoir quelque chose de l'au-delà. Une série proposée par Evelyne Auberçon et réalisée par Hélène Ichters. Evelyne Auberçon, bonjour.
Bonjour.
Par des témoignages, des avis de scientifiques, nous allons cette semaine explorer une réalité, il faut bien le dire, troublante, les expériences de mort imminente, et ce, avec un accent particulier sur ce qui se passe après l'expérience.
Oui, parce que dans ce type d'expérience, il y a souvent un avant et un après. L'après est sans doute tout aussi important, voire même plus important que l'expérience elle-même. On entend, c'est vrai, souvent des témoignages de personnes qui se voient sur le lit d'hôpital, par exemple, avec le personnel soignant qui s'agite autour de leur corps, alors qu'eux-mêmes ont le sentiment d'avoir quitté ce corps. Elles évoquent souvent cette fameuse lumière, le tunnel, sorti d'un sentiment d'amour universel. Ça, c'est un peu l'histoire classique qu'on entend souvent. Mais elle ne s'arrête pas là, cette histoire. Comment est-ce qu'on digère une telle expérience? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment parler de cette réalité à son entourage? Comment ne pas être pris pour un fou ou une folle? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de tenter de répondre.
Et tout de suite, on commence par un témoignage, le témoignage de Vincent Lafargue.
Alors, Vincent Lafargue a vécu une expérience de mort imminente en l'an 2000. Une expérience forte qui va l'amener à réfléchir sur le sens de sa vie et voire même à changer d'orientation. Lui qui était comédien à Genève, eh bien il est devenu prêtre en Valais. Il exerce en ce moment son ministère dans les paroisses de Lens, Chermignon et Montana Village. Vincent Lafargue.
Tout a commencé un soir de novembre 2000, une époque où je vivais à 200 à l'heure. J'étais à la fois comédien, à la fois animateur de radio un peu bénévole et à la fois prof parce qu'il fallait bien quand même manger un peu. Et mon rapport à Dieu se bornait très souvent à l'engueulade. C'est-à-dire que j'étais souvent là pour lui demander où il était lui, pourquoi le mal dans le monde, pourquoi telle chose dans ma vie, pourquoi telle chose chez mes proches. Et j'étais beaucoup moins souvent là pour lui dire merci ou pour prier tout simplement. J'avais 25 ans à l'époque, et puis ce soir-là, je prends mon deux roues pour aller à une répétition de théâtre, et j'avais bien conscience qu'il commençait à y avoir beaucoup de choses, parce qu'on ne peut pas mener ces trois métiers de front sans tôt ou tard en payer les pots cassés. J'étais fatigué, il y avait pas mal de stress, etc. Puis arrivé à un feu rouge... Nous étions en ville de Genève, soir de novembre, petite pluie fine, légère brume. Arrivé à un feu rouge, je me mets à parler dans mon cœur, hein, pas à haute voix, mais dans mon cœur à Dieu en disant « Mais oui, je sais bien que je vais trop vite, je sais bien que je fais trop de choses, je sais bien que ma vie est complexe. Il faudrait que je freine, mais je sais pas comment faire. Ma pièce de théâtre, on va la jouer dans 2 semaines, rien n'est prêt, mes étudiants à l'école ont besoin de moi, la radio c'est une passion, je continue, bon, comment freiner? Je sais pas. » Et puis, me vient cette question, si tu es si malin, toi, et si tu existes vraiment, essaye voir de m'arrêter. Tout ça dans le fond de mon cœur, bien sûr, comme on peut réfléchir comme ça de temps en temps. Et là, alors que j'avais la musique à fond dans mon casque de moto, j'entends distinctement une voix, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause, une voix qui me dit, et que j'avais jamais entendu auparavant, une voix qui me dit, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me demandes? Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me demandes? Et là, cette fois-ci, à haute voix, j'ai répondu oui. Et le feu est passé au vert et j'ai démarré. J'ai fait 100 mètres et je suis entré en collision avec une voiture de face à 50 à l'heure. Donc voilà, 100 à l'heure dans un mur, je ne fais pas le détail. J'étais un peu cassé de partout malgré mon casque, hein, 14 fractures. Et c'est en arrivant à l'hôpital, un peu après mon arrivée à l'hôpital, je crois, que j'ai fait un arrêt cardiaque, ce que les médecins m'ont évidemment dit après coup. J'en ai absolument aucun souvenir comme ça. Mais les médecins m'ont expliqué 6 mois après que j'avais fait un arrêt cardiaque ce soir-là, parce que tout à coup, je leur racontais des choses qui leur paraissaient étranges. J'avais des souvenirs de moments où, scientifiquement, je ne pouvais pas avoir vu quoi que ce soit, puisque j'étais dans le coma, sur un lit qu'on poussait vers la salle d'opération, dans des couloirs. Et j'ai eu la chance d'avoir un chirurgien qui était à l'écoute. Lorsque j'ai commencé à lui parler de ses souvenirs, qui a été à l'écoute, qui m'a dit « Mais est-ce que vous vous rappelez d'un dialogue? Est-ce que vous vous rappelez du lieu? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?» Et tout ce que je lui disais, étonné moi-même d'avoir ces images qui me venaient et ce dialogue, tout ce que je lui disais, il me le confirmait en disant « C'est vrai, les détails que vous donnez sont exacts. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que vous ne pouvez pas vous en souvenir. » Et je suis allé jusqu'à lui décrire le massage cardiaque qui a été fait sur moi et le dialogue qui a été prononcé à ce moment-là, l'endroit dans lequel on se trouvait, etc. Et tout cela, ben voilà, j'ai eu la chance d'avoir ce chirurgien qui m'a écouté de manière bienveillante, qui m'a dit « je vous crois », ce qui est extraordinaire parce que, semble-t-il, c'est pas le cas de tout le monde, qui m'a dit « je vous crois ». Je ne peux simplement pas expliquer scientifiquement ce que vous me dites et ce que vous avez vécu, mais je vous crois, parce que vous n'êtes pas le seul. À l'époque, je ne m'étais absolument pas intéressé à ça. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient eu ce genre d'expérience. Je ne connaissais pas le mot « expérience de mort imminente » ou « near-death experience ». Je n'avais pas lu de bouquin à ce sujet. Voilà. Et c'est ce médecin qui m'a dit « je vous recommande de rencontrer peut-être des personnes qui ont vécu cette expérience, de pouvoir en parler autour de vous ». Vous verrez que vous n'êtes pas le seul, vous verrez que vous n'êtes pas fou, ce qui fait beaucoup de bien entendre. Hein. Et voilà, vous allez entrer dans un domaine que la science ne peut pas expliquer pour l'instant, mais qui est manifestement ce que vous avez vécu, qui est un vécu de votre part et que j'entends et que j'accueille. Pour ma part, je n'ai pas été très loin, entre guillemets, dans cette expérience de mort imminente. J'ai lu après des récits de gens qui... alors la lumière blanche, la fameuse lumière blanche, je l'ai vue, mais je n'ai pas été au-delà de ça, je n'ai pas rencontré quelqu'un, je n'ai pas entendu de voix qui me parlait, je n'ai pas rencontré mes proches, ce dont certains témoignent. Moi, je me souviens d'être sorti de mon corps, d'avoir très clairement, alors cette vision de mon corps tout malade et avec toutes les personnes qui s'agitaient autour, et puis d'avoir cette vision d'une lumière blanche qu'il est extrêmement difficile de décrire. Sinon, la seule manière que j'ai trouvée, c'est de dire c'est plus fort que la lumière du soleil, beaucoup plus éblouissant que la lumière du soleil, mais en même temps, ce n'est pas éblouissant. C'est tellement agréable, doux, que l'on est attiré par cette lumière et qu'on a envie de la rejoindre. Et puis, toutes les douleurs, vous imaginez les quelques douleurs que je pouvais ressentir, toutes les douleurs s'effacent et on est dans un état de bien-être absolu. Alors évidemment, après, il y a un certain nombre de thèses scientifiques, on lit aussi d'autres choses, on lit des livres et des témoignages qui vont essayer d'expliquer scientifiquement ça, qui parlent de shoot du cerveau au moment où il se sent mourir, est-ce que c'est ça qui provoque cette lumière blanche? Moi, peu m'importe, quoi. L'expérience que j'ai vécue est magnifique, belle, elle m'a laissé une immense paix par rapport à la mort. Et... ce n'est qu'après coup, encore une fois, que j'ai su qu'à ce moment-là, mon cœur ne battait plus. Donc, on ne peut pas forcément parler de mort clinique, c'est plus complexe que ça. On sait qu'il y a de nombreux paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, cette expérience, je l'ai vécue comme ça, sur le moment, et les souvenirs en sont revenus peu à peu.
Quand vous dites, Vincent Lafargue, que les souvenirs sont venus peu à peu, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que sur le moment même, enfin, dans votre état comateux, vous n'avez pas gardé mémoire de cet événement-là ?
Oui, la mémoire est revenue effectivement peu à peu. Je sais que j'ai des souvenirs très précis de ce soir-là, de l'hôpital. Je sais que je suis parti plusieurs fois dans les pommes et revenu plusieurs fois à moi. Donc j'ai des souvenirs extrêmement précis qui restent. Mais les souvenirs de cette expérience-là sont venus peu à peu à mon esprit, sans que je les cherche, et notamment à partir du moment où je suis retourné sur les lieux de l'accident et où quelque chose s'est débloqué. Je n'avais, comme beaucoup de gens, pas de souvenir du choc et de ce qui suivait, même quelques secondes avant, le souvenir s'était effacé. Et au moment où je suis revenu sur les lieux de l'accident, c'est comme si on avait réenclenché un film en appuyant sur play, et toute une série de choses sont revenues. Et puis, c'est au fur et à mesure de mes visites à l'hôpital, dans certains couloirs, que d'autres souvenirs sont revenus de ce soir-là. Alors, je l'explique pas, évidemment. Je sais pas pourquoi, comment. Pour moi, ça a pris quelques mois pour que ces souvenirs reviennent. J'allais dire, je peux jurer. C'est pas loin de ça. Je sais qu'ils sont ancrés en moi et que c'est quelque chose de vécu. Et puis, bien, il y a ce témoignage de ce chirurgien qui m'interdit de croire que c'est une affabulation. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est la question que je me suis posée au départ. Quand ce genre de souvenirs vous reviennent, vous dites « mais j'ai inventé tout ça ». Ou alors « j'ai dû en entendre parler, je m'en souviens plus, mais j'ai dû entendre parler quelqu'un d'un souvenir de la sorte et j'ai dû fabriquer des images ». Le problème, c'est lorsque les images sont réelles et que le médecin vous dit « c'est exactement ce qui s'est passé, l'endroit où on était, la conversation qu'on a eue, mot pour mot ». Alors là, ça devient difficile de se dire « j'ai imaginé ça ». quoi.
Vincent Lafargue, au moment où vous avez restitué tous ces souvenirs qui sont ressortis de votre mémoire, qu'est-ce qui se passe dans votre vie ?
D'abord, c'est un choc. Hein. Quand on vous dit que vous êtes passé juste à côté de la mort, c'est un sacré choc. J'ai le souvenir, quand le médecin m'a dit ça, avec toute la douceur dont il était capable, d'avoir pris une batte de baseball dans la figure. Quoi. On se dit, waouh, je suis passé si près que ça, je ne pensais pas. Et donc, ça enclenche une réflexion. Elle vient petit à petit, hein, c'est pas sur le moment, elle prend des semaines à venir, mais on y repense, on se dit voilà, j'ai failli mourir, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire de la valeur du temps, parce que quelque part, ça veut dire que j'ai une deuxième vie, d'une certaine manière, on parle pas de réincarnation bien sûr, mais une deuxième chance, une deuxième vie, mon cœur est réellement reparti, donc il y a une... Il y a un same player shoot again, si on veut, hein, on parle en termes de flipper. J'ai une partie gratuite. Donc, qu'est-ce que je vais en faire ? Et c'est la première interrogation, de se dire, qu'est-ce que je vais en faire ? La deuxième interrogation, presque immédiate, et qui me réveille encore certaines nuits, c'est pourquoi moi, je suis encore là, alors que d'autres n'ont pas eu cette chance ? Et ça, c'est une question très douloureuse à laquelle on n'a pas de réponse. Peut-être que j'ai encore quelque chose à faire, peut-être que je devais continuer, peut-être que... comme croyant et vu le dialogue entre guillemets que j'avais eu dans le casque avant, qui m'est revenu alors lui assez rapidement, comme croyant on se dit, est-ce qu'il y a une volonté là derrière ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a une main invisible, pour reprendre les termes de Bertrand Piccard ? Est-ce qu'il y a... Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a une volonté, un destin ? Bon. Puis on évacue assez rapidement ce genre de choses, en disant d'abord, ma vie, elle est ce que j'en fais. J'ai forcément une vocation, tout le monde en a une. Hein. Tout le monde n'a pas forcément un métier, mais une vocation, tout le monde en a une. Donc j'ai forcément une vocation. Maintenant, quelle est-elle, cette vocation ? Il me semblait l'avoir trouvée, mais est-ce que c'est si évident que ça ? Bon. Et puis, on passe, dans mon cas, 2 ans. À réfléchir. Alors, 2 ans pendant lesquels j'ai repris mon travail, j'ai recommencé à donner des cours, j'ai recommencé un petit peu de théâtre de manière un petit peu plus calme. Hein. Ça calme quand même sacrément ce genre d'expérience. Et puis la réflexion passe inévitablement, je m'en suis rendu compte avec d'autres personnes que j'ai rencontrées, par comment est-ce que je peux être au service des autres. Il y a cette soif, tout à coup, d'être au service des autres. Alors qu'auparavant, je vous prie de me le croire, j'étais parfaitement égocentrique. Je n'ai malheureusement pas complètement changé, mais il y a quand même un petit mieux. Et là, on se dit, ben, je sens au fond de moi que j'ai besoin d'être au service des autres. Ça m'est un besoin fondamental. Alors maintenant, il y a plein de manières d'être au service des autres. Un pompier, il est au service des autres. Un psychologue, il est au service des autres, etc., etc. Et puis en même temps, la réflexion passe par la spiritualité. J'ai approfondi davantage ma foi. J'en ai parlé de cette expérience, mais je balbutiais à l'époque. Je n'osais pas vraiment en parler. Mais j'en ai parlé avec 2-3 personnes un peu plus religieuses qui ne m'ont pas du tout dit « t'es fait pour être prêtre, c'est un signe », etc. Pas du tout, hein, absolument pas. Et d'ailleurs, si on m'avait dit à l'époque que je serais prêtre, j'aurais éclaté de rire, je pense, vraiment. Donc il y a cette réflexion, pourquoi je suis fait dans la vie? Et puis peu à peu, je me laisse guider par des amis, par des personnes à qui j'en parle et qui me disent, mais écoute, regarde, tu aimes enseigner, c'est peut-être quand même ça. En même temps, tu aimes être à l'écoute des gens, tu es quelqu'un vers qui on va se confier facilement, en qui on fait confiance. Tu nous relies souvent à du spirituel, à quelque chose qui a de la valeur pour toi, on le sait, à ta foi. Donc, cherche peut-être aussi dans ce domaine, ou voilà, creuse un peu tout ça. Bon, je creuse. En même temps, la vie continue avec son tourbillon d'activités, et puis il y a des jours où j'y pense pas du tout. La vie continue comme ça, et puis voilà, je me pose pas trop de questions. Ceci jusqu'à l'écoute d'une émission de la RTS, qui s'appelait pas la RTS à l'époque. C'était la première magnifique émission de Martine Galland qui s'appelait Journal Infime et dans laquelle elle reçoit ce jour-là un prêtre. Moi, je prends l'émission en cours de route, je suis dans ma voiture en train d'aller à mes cours et j'entends la voix de cet homme qui me rentre au fond du cœur. On ne sait pas pourquoi, des fois, une voix nous bouleverse. Et la voix de cet homme, vieil homme, me rentre dans le cœur. Il explique son amour de la poésie, c'est mon cas. Son amour du cinéma, de l'art, c'est mon cas aussi. Il explique sa jeunesse, dans laquelle il faisait d'autres choses, d'autres métiers. Mais il ne dit pas son métier. Et comme j'ai l'émission en cours de route, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas quel est son métier. J'étais beaucoup moins branché sur Internet qu'aujourd'hui. Impossible de savoir qui c'est. Et puis, l'émission étant un feuilleton à l'époque, le surlendemain, je réécoute et je prends le temps cette fois-ci d'être à l'écoute de cette émission. Et j'ai cru prendre un coup de foudre sur la tête. J'étais au volant, j'ai dû m'arrêter, me mettre sur le trottoir au début de l'émission, au moment où la personne qui présentait dit « Voilà, nous sommes toujours chez l'abbé Intel qui est prêtre à tel endroit. » Et je me suis dit « Quoi, ce gars-là, il est curé ?» Mais pour moi, un curé, ça dit la messe le dimanche, je ne savais pas trop ce que ça faisait d'autre. Et puis j'écoute toute l'émission fébrilement, vraiment, les deux mains sur le volant, moteur allumé, mais arrêté sur le trottoir, quoi. J'appelle les renseignements et puis je demande son numéro. On me le passe et je m'entends lui dire cette phrase que j'avais absolument pas préparée, enfin, j'étais dans la fébrilité du moment. Je lui dis, écoutez, voilà, je viens de vous entendre à la radio, ça va vous paraître complètement aberrant. Je pense que je suis peut-être appelé à faire la même chose que vous. Grand silence au téléphone. Et il me dit, faudrait peut-être qu'on se rencontre. Je lui dis, oui, volontiers. Vous avez le temps d'un café tel jour? Mais oui, pourquoi pas? Vous êtes loin de chez moi? Non, ça va. On boit un café. Et puis le café, à 14h, a duré jusqu'à 23h30. Je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter, mon expérience. Et il m'a dit, mais écoute, tu as une deuxième vie, il me vous voyait à l'époque, vous avez une deuxième vie, vous avez du temps, vous avez un métier, prenez le temps, discutez avec des gens, vous avez des prêtres dans votre entourage, profitez, puis allez voir peut-être les autres métiers de l'Église, il y a plein de manières de servir son prochain dans l'Église, regardez, discutez, renseignez-vous, prenez le temps, réfléchissez bien. J'ai beaucoup admiré ça, parce que je pense que s'il m'avait dit foncez, je serais parti en courant. Et puis là, me sont revenues plein de choses, j'ai rediscuté avec d'autres personnes, j'ai vu un petit peu en arrière une sorte de fil rouge, en fait, dans ma vie, qui me menait peut-être bien à ça. Et voilà, enfin, en gros, c'est ça qui m'a poussé à ce moment-là à prendre cette voie-là.
Aujourd'hui que vous êtes prêtre, vous avez fait vos études, vous êtes prêtre, Vincent Lafargue, est-ce que c'est plus facile, quelque part, d'être croyant avec une telle expérience ?
Je crois qu'en tout cas, pour moi, cette expérience est un socle où a fermé ma foi, c'est évident. Ensuite, elle m'a poussé à m'intéresser à d'autres personnes qui ont fait des expériences similaires et de m'intéresser davantage au surnaturel ou au mystique dans ma propre foi, alors qu'auparavant, j'étais vraiment un rationnel. Donc cela assoit et affermit ma foi, certainement, et mon lien, mon rapport à Dieu. Mais en même temps, c'est aussi un questionnement constant, de me dire, tu as eu la chance d'avoir une deuxième vie, qu'est-ce que tu en fais ? Et je suis souvent extrêmement dur avec moi-même en me disant « mais regarde le temps que tu perds, regarde les futilités auxquelles tu t'adonnes, tu as la chance d'avoir cette deuxième vie, mais fais-en quelque chose de plus riche encore ». Donc c'est en même temps, je dirais pas un événement jugeant, mais quelque chose qui me titille et qui me rappelle sans cesse à l'ordre, quoi. Et en même temps encore, c'est un événement qui me rappelle la valeur du temps. On ne sait pas combien de temps on a sur cette terre, et puis qui m'apaise, comme je l'ai dit, par rapport à la mort. Je m'approche des personnes qui meurent, et Dieu sait si j'en vois dans ma vocation, je m'approche des personnes qui meurent avec une douceur que j'hérite certainement de cette expérience-là, et qui m'aide beaucoup à parler aussi de la mort, à parler de la paix qu'on peut ressentir dans ce genre de cas. Et évidemment, mon expérience, encore une fois, m'aide à croire qu'il y a quelque chose après, et que ce qu'il y a après est paisible. Et ça, c'est un très grand réconfort quand on doit prêcher la foi en la vie éternelle à d'autres personnes.
Cette expérience, Vincent Lafargue, vous donne quelque part, on le sent, une forme de responsabilité. Vous avez eu la chance d'avoir une deuxième vie, vous devez en faire quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, quelque part, une espèce de course en avant qui reproduit quelque part ce que vous étiez avant même cette expérience ?
Alors, il y a un freinage constant chez moi. Et effectivement, comme je suis un passionné de la vie, un activiste dans plein de domaines, j'ai tendance toujours à reprendre plein de choses. Cette expérience m'a appris à mettre des zones tampons dans mon agenda, à m'arrêter, à prier. Évidemment que mon état de prêtre m'aide aussi énormément dans ce sens-là. Les prières régulières, plusieurs fois par jour, sont des moments de respiration qui m'aident énormément. Une responsabilité aussi de dire aux autres: ne courez pas après du vent, n'allez pas trop vite dans la vie. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous arrêter. Notre vie, surtout dans notre monde occidental, pour beaucoup de gens, est une vie de cinglé. Prenez le temps de freiner, écoutez une belle musique, regardez un beau paysage, arrêtez-vous. Ça, je crois que c'est une responsabilité que je prends très à cœur. Je le dis beaucoup autour de moi. Malheureusement, je ne suis pas un très bon élève. Il y a un paradoxe, vraiment. À la fois de vouloir prendre du temps, de vouloir s'arrêter, de freiner, et puis de vouloir mordre la vie à pleines dents. Voilà. Il y a une autre responsabilité qui me tient à cœur. Pendant les 2 années qui ont suivi mon accident et mon expérience, j'en ai quasi pas parlé. J'ai ressenti, comme beaucoup de gens, le besoin d'en parler, et en même temps avec une très grande angoisse, parce que lorsqu'on en parle et que vous tombez sur quelqu'un qui, en face de vous, prend ça à la rigolade, ou vous dit « ouais, mais c'est des histoires, c'est... » Ça blesse très profondément quand on ne se sent pas reconnu dans ce qu'on a vécu. Alors j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui m'a accueilli, j'ai eu la chance de tomber sur d'autres personnes qui m'ont écouté, mais petit à petit s'est dessinée la responsabilité d'en parler plus loin. Et je suis régulièrement invité par des jeunes ou par des écoles à en parler. Je le fais rarement. Et c'est la première fois que je le fais comme ça sur les ondes, d'ailleurs. Je le fais très rarement parce que chaque fois, je m'arrache les tripes. J'ai pas l'air, mais ça vient du plus profond de moi et j'en ressors jamais indemne, finalement. Et en même temps, à chaque fois, il y a un petit signe. Il y a quelqu'un qui m'a entendu, qui me téléphone après, qui me dit « Écoutez, merci, continue à le faire ». Et je continue à le faire aussi pour ces raisons-là, en me disant « J'ai la responsabilité de témoigner de quelque chose qui m'est arrivé, qui peut changer la vie des gens ». Qui peut rassurer ceux qui ont vécu quelque chose de semblable en leur disant « vous n'êtes pas fous » et qui peut aussi faire réfléchir ceux qui vivent à 200 à l'heure comme je le vivais avant.
Comment vous expliquez le fait que pour vous, ce n'est pas facile de parler de cette expérience ?
Il y a cette peur de ne pas être cru ou pris au sérieux. Et puis, il y a cette peur quand même en moi qu'on vienne me demander des comptes de cette deuxième vie que j'ai reçue. Et qu'on vienne me dire, alors, c'est bien, tu en parles, tu témoignes de tout ça. Ok, mais qu'est-ce que t'en fais vraiment de cette deuxième vie ?
Le témoignage de Vincent Lafargue, prêtre en Valais, qui nous racontait sa vie après son expérience de mort imminente. C'est impressionnant, Evelyne Auberçon, ce sentiment de responsabilité face à ce qu'il appelle sa deuxième vie.
Et en même temps, c'est un sentiment qu'on retrouve assez souvent chez les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Par contre, ce qui est moins évident, c'est d'en trouver tous les aspects positifs dans sa vie. On le verra demain, c'est une expérience qui remue beaucoup et de retrouver un équilibre par la suite, c'est vraiment très difficile.
Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile ?
Eh bien, parce que certaines personnes ne s'en remettent pas, parce qu'elles ne trouvent pas d'oreilles attentives et bienveillantes à leur récit, parce qu'elles n'arrivent pas à l'intégrer dans leur vie, parce qu'il y a une sorte de hiatus entre ce qu'elles vivent et ce qu'elles souhaiteraient vivre. C'est très complexe et on va le voir demain avec un entretien avec Sylvie Détiola. Elle est la directrice de l'Institut Suisse des Sciences Noétiques qui mène justement des recherches sur le sujet.
Et puis on peut préciser que via notre page internet, vous pouvez accéder au site de Vincent Lafargue. Ainsi se termine cette émission d'À vue d'esprit, la suite de cette série d'Evelyne Auberçon intitulée En deçà de l'au-delà, demain dès 16h30. Et pour plus d'informations, une seule adresse, rts.ch/esprit. Dans quelques minutes après les informations, vous avez rendez-vous avec Daniel Robella et D'un air entendu. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 17h.